Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. La plage, en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis folle, mais quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement. Ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme, mais quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut
Diantel, si j'étais un homme.
femmes et équité au théâtre. Pour amorcer les actualités culturelles, Annick Lefebvre persiste et signe. Il y a 2 ans, la dramaturge Annick Lefebvre a fait paraître un brûlot dans la revue de théâtre Jeu afin de réclamer une plus grande place pour les jeunes auteurs et metteurs en scène au théâtre. Même si elle note que des progrès ont été faits, elle croit que le combat doit se poursuivre. C'est un article de Mario Cloutier. Annick Lefebvre persiste et signe. La dramaturge et productrice milite toujours en faveur d'une plus grande place des femmes au théâtre. Je ne regrette pas du tout ma lettre, même si j'ai de la peine d'avoir fait de la peine à des gens, dit-elle. Je reste quand même sur ma position que si je n'avais nommé personne, on aurait probablement été consensuel d'accord. On aurait probablement été consensuellement d'accord sur le fait qu'il faudrait plus d'audace, ce qui aurait, d'après moi, fait peu bouger les choses. Elle avoue que plusieurs personnes lui ont souligné que certaines autres salles à Montréal ne faisait pas plus d'efforts qu'Espace Go pour programmer des femmes comme auteurs ou metteurs en scène. Donc, il y a 2 ans d'enjeu, elle accusait notamment Espace Go de faire du théâtre bourgeois, mais funky, pour sauver les apparences. « Je pourrais écrire un texte comme ça par théâtre, dit-elle. Ça dirait aussi, vous êtes en contradiction avec ce que vous dites faire. C'est même plus large que la question des femmes, c'est celle des directions artistiques qui devraient peut-être avoir des mandats fixes. Ça ouvre une très grande boîte de Pandore. » Pandore. Elle croit que ce sont les actions des femmes, après la publication de sa lettre, qui ont fait en sorte que la saison théâtrale 2017-2018 offrait au public, comme par hasard, plus de productions écrites ou dirigées par des femmes. Je ne sais pas si cette lettre est arrivée à un moment où tout allait débouler. J'ai l'impression que oui. Je ne trouve pas que les choses se soient tant améliorées par rapport au lieu que je visais, mais c'est petit à petit que les choses se font, dit Annick Lefebvre. Je me suis aussi impliquée dans « Femmes pour l'équité en théâtre », poursuit-elle. C'est devant les faits concrets, les statistiques, qu'il y a eu une prise de conscience de la part du milieu. C'est aussi dans l'air du temps. Avec moi aussi, il y a quelque chose de plus grand que le théâtre qui se passe socialement. À l'automne, la même semaine, 4 théâtres ont présenté les nouvelles pièces de Catherine Léger, Catherine Chabot, Marianne Dansereau et Sarah Berthiaume. Mais n'est-ce pas se tirer dans le pied que de procéder ainsi, lui demande-t-on? Tant mieux si ces projets trouvent le chemin de la scène. Pour les prochaines saisons, j'imagine que les programmateurs vont vouloir beaucoup de paroles de femmes dans leur lieu. Ce serait la conséquence immédiate, mais il va falloir voir si, à long terme, on ne retourne pas dans un vieux pattern. L'auteur des Barbelés, qui ouvrira la prochaine saison du 4 sous après avoir été créé à Paris en novembre dernier, dit vouloir continuer de mettre son grain de sel pour que la roue tourne encore. « Je reste à l'affût. C'est à voir. Les paroles de femmes s'exercent-elles seulement dans les petites salles ou est-ce aussi valable sur les grandes scènes? Je crois que les filles ont surtout pris la place dans les petites salles. La prochaine bataille sera du côté des metteurs en scène, croit-elle. Il n'y en a pas tant que ça. On se rend compte que ce sont encore les hommes qui mettent en scène. Il faut aller chercher les femmes sans solliciter les 4 mêmes pour ne pas les brûler. » Musique, liste d'écoute, hymne, pop, féminin. Émilie Côté, Ray of Light, 7e opus de Madonna, sorti il y a 20 ans, serait le meilleur album d'Empowered Pop. Empowered Pop, selon le quotidien britannique The Guardian. La presse profite de la Journée internationale des femmes pour dresser une liste d'écoute de 15 hymnes féminins qui donnent confiance en soi. Alors, qu'est-ce que l'empowerment? C'est un terme difficile à prononcer. Non, ça, c'est moi qui ajoute ça. C'est un terme fréquemment utilisé en anglais pour parler de musique comme de féminisme qui n'a pas vraiment d'équivalent en français. Selon l'Office québécois de la langue française, cela peut se traduire par « autonomisation », soit le fait qu'une personne acquiert la maîtrise des moyens qui lui permettent de renforcer son potentiel. Ray of Light, Madonna, dont la chanson-titre dansante est teintée de spiritualité de son 7e album, Madonna dit s'être trouvée. La star vient alors de donner naissance à sa fille Lourdes et elle s'intéresse à la cabale. Alors, pour chaque chanson, la presse propose 29 secondes d'extrait. On ira avec une chanson un petit peu plus tard après cette chronique. Stronger, What Doesn't Kill You, de Kelly Clarkson. Ce n'est pas pour rien que ce tube de Kelly Clarkson se fait souvent entendre dans les cours de groupe de conditionnement physique. « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort », dit le refrain. Saisis le jour, Lara Fabian. Lara Fabian, de retour sur les projecteurs au Québec comme coach à la voix, nous invite à travers les peines et les obstacles à saisir le jour et à laisser la vie suivre son cours. « Run the world, girls, Beyoncé. Qui mène le monde? Les filles », répète la reine Beyoncé dans son tube frénétique et presque guerrier. Vivante, France d'amour. Dans l'un de ses premiers succès qui date de 1994, France d'amour dit chanter à tue-tête pour se garder vivante. Oui, vive le rock pour se revigorer. Born This Way, Lady Gaga. Ce tube de Lady Gaga, tout comme celui qu'il évoque, Express Yourself de Madonna, souligne l'importance de s'exprimer et de s'aimer tel que l'on est. C'est moi, Marie-Mé. Je fais mes lois, je décide, chante Marie-Mé dans sa chanson C'est moi. Et son chemin, c'est elle qui le dessine, compris? Roar ou Roar, R-O-A-R, Katy Perry. Roar, Katy Perry a beaucoup de pouvoir dans son tube. Elle a l'œil du tigre, elle danse dans le feu et elle peut rugir à tout moment. Confident, Demi Lovato. Prière de ne jamais accuser Demi Lovato d'avoir trop confiance en elle, avise-t-elle dans son tube Confident, dont le clip met en scène Michelle Rodriguez, une femme qui a du front. Mademoiselle Anne, Mitsu, incarnation des femmes libres, attirantes, mystérieuses et indépendantes, Mademoiselle Anne fait tourner toutes les têtes, mais elle marche sans regarder derrière elle. Girl on Fire, Alicia Keys coach à The Voice et qui ne se maquille même pas à la télé, décrit une sorte de super-héroïne dans son succès Girl on Fire. Raise Your Glass, Pink, en musique comme dans la vie, Pink incarne l'empowerment. Elle prend même les airs de l'icône féministe Rosie, la rifteuse dans le clip de Raise Your Glass, chanson où elle lève son verre aux marginaux. Shake It Out, Florence and the Machine, Florence Welch incarne l'image d'une femme libre. Avec Shake It Out, elle nous invite à nous libérer de nos regrets et de nos démons intérieurs. Soirée de filles, Marie-Chantal Toupin. On ne prétend pas qu'il s'agit d'une chanson féministe, mais Soirée de filles de Marie-Chantal Toupin célèbre l'amitié, la solidarité, le défoulement au féminin. Et je termine avec, et non la moindre, ce grand classique de la musique populaire est sans doute à la source de l'empowerment pop, Aretha Franklin, y exige le respect en lettres majuscules. Oui, un grand classique, effectivement. Respect Aretha Franklin sur les ondes de Canal M de Vusez-Voix. Alors, pour terminer cette émission du 8 mars, le choix que j'ai fait, c'est d'être heureuse. C'est un article que j'ai trouvé dans Le Nouvelliste sous la plume de Fanny Massé. À l'âge de 25 ans, Ariel Gagnon a choisi de faire sa transition et de devenir définitivement une femme. Le choix que j'ai fait, c'est d'être heureuse. Dans le cadre de la Journée des femmes, elle souligne qu'il y a encore du chemin à faire au niveau de la transsexualité. Femme d'affaires accomplie, Ariel Gagnon travaille depuis plusieurs années pour l'organisme Diversité en Mauricie comme intervenante. Elle donne plusieurs conférences afin d'informer les gens au sujet de la transsexualité. À son avis, la Journée des femmes devrait être davantage exposée. C'est un problème d'avoir une seule journée associée à la femme. Cette journée devrait être identique à celle du 31 mars, soit une journée du souvenir. On devrait se souvenir des femmes qui ont été battues et des inégalités sociales, croit-elle. Pour avoir vécu les deux, elle trouve d'ailleurs qu'il y a des avantages à vivre comme un homme. Le monde nous écoute plus. Les hommes ont des salaires plus élevés. Ils ont une crédibilité. Cette crédibilité, je l'ai perdue lors de ma transition. Maintenant, je dois me battre beaucoup plus fort pour amener mes points, explique-t-elle. J'ai maintenant très peur de me promener à l'extérieur, surtout dans une ruelle. Je me suis déjà fait agresser parce que je suis une femme, renchérit-elle. Un long processus a été nécessaire avant d'entamer ce changement. Au début de sa transition, elle a rencontré à plusieurs reprises des sexologues, des psychologues afin de confirmer ses choix. Elle souligne qu'à Trois-Rivières, un seul médecin endocrinologue possède l'expertise nécessaire pour offrir des hormones aux gens transgenres. Ce médecin lui a donc prescrit des hormones qu'elle devra prendre toute sa vie. Elle précise que ces médicaments ont totalement changé sa vie et qu'elle les désirait depuis longtemps. Ce n'est pas toujours évident, la transition. On passe à travers une période de puberté très courte. Dans mon cas, j'ai vraiment eu de la chance puisque cette transition s'est bien déroulée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu un très bon soutien de ma famille, précise-t-elle. Plusieurs personnes qu'elle considère comme des connaissances ont toutefois pris la décision de ne plus lui parler. Ces gens-là n'acceptaient pas ce changement, alors j'ai pris la décision de les sortir de ma vie. Malgré l'évolution des mentalités, elle doit tout de même faire face aux commentaires négatifs de la société. Les gens m'ont déjà dit qu'être transgenre, c'est une maladie mentale, qu'on devrait se faire enfermer, que ce n'est pas naturel. Pour eux, je ne pourrai jamais être une femme à part entière, souligne-t-elle. Elle a aussi été victime d'intimidation à plusieurs reprises durant son primaire et son secondaire. Elle se décrit comme ayant un fort caractère, ce qui lui a permis de passer au travers ces années difficiles. « Je fais preuve de beaucoup de résilience. Il ne faut pas avoir peur de parler et de bien dire les choses comme elles le sont vraiment. Je ne parle pas de mon passé. Par exemple, lors des entrevues d'embauche, je leur dis que je suis une femme, c'est tout. » Après plusieurs mois, je leur explique que je suis une transgenre, mais heureusement, les gens comprennent bien, raconte-t-elle. Par contre, elle affirme que cette situation n'est pas toujours aussi rose. Elle connaît des gens qui se sont fait rejeter et qui ont perdu leur emploi à la suite de l'annonce de leur transsexualité. Grâce à Facebook et les blogs, on comprend plus rapidement notre situation. C'est donc plus facile maintenant de comprendre ce que je vis. Lorsque j'étais jeune, je n'avais pas accès à ces notions-là. Pendant longtemps, je me suis demandé ce que j'avais, conclut-elle. Je disais tantôt que la presse offrait un dossier spécial dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Je vous en lis un autre extrait. « Je suis hors la norme pour en finir avec la femme objet. Trois spécialistes font le point sur la diversité corporelle et sur les moyens de la mettre de l'avant. Mais d'abord, je voulais quand même mettre l'accent sur l'article signé d'Isabelle Morin sur cette femme qui s'appelle Linda Dion. Il faudrait peut-être qu'on m'arrache les yeux pour que je puisse me trouver belle, écrit Linda Dion dans Grosse, un roman qui témoigne de sa douleur de vivre dans une enveloppe hors standard. Sans détour, à vif, l'auteur plonge dans un mal actuel, la difficulté d'exister dans un monde en quête du corps idéal. On ne naît pas belle, on le devient, ou pas, selon sa capacité à se conformer aux dictats de la beauté. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été grosse. Pas un peu ronde ou en chair, mais grosse. Dans ma perception du moins, écrit l'auteur en se penchant sur cette enveloppe, la sienne, trop imposante pour s'insérer dans la case étriquée des standards de beauté. Le sujet gêne. Le titre, « grosse », crée déjà le malaise. Le mot est cru, provoquant, un doigt d'honneur adressé à une époque omnubilée par la minceur. J'ai l'impression que mon surpoids marque ma résistance aux standards. C'est comme un, et je cite, « fuck you » à l'univers. Mais en même temps, je me suis pénalisée, moi, dit Linda Dion. La muraille de chair, comme en témoigne son roman, n'a pu lui épargner les régimes cycliques et la honte d'être imparfaite. Par l'écriture, l'écrivaine, qui est aussi professeure de français et de littérature au secondaire, déterre une par une les pierres sur lesquelles repose la détestation de son corps, raconte l'appétit impossible à assouvir, les orgies de nourriture et d'alcool entrecoupées de séances d'autoflagellation, la détresse et le fardeau. Son récit ne s'embarrasse pas des virgules. Les souvenirs s'enchaînent dans une urgence de dire. Linda Dion fait éclater la forme pour éclater la norme, pour se reconstruire. Vivre hors la norme. Le roman débute avec une image forte, un couteau de boucherie posé sur le ventre de la narratrice, un acte d'ultime désespoir pour en finir avec la douleur. Trancher la chair, extirper la graisse, non pas pour mourir, mais pour vivre. Plus légère, le corps libéré de son poids de haine. Je ne serai jamais Barbie. Je le sais déjà, je suis grosse de l'intérieur, se raisonne la narratrice, pourtant écartelée entre deux options. Se conformer ou défendre sa différence. Grosse n'est pas un plaidoyer pour la rondeur, insiste l'auteur, mais un livre qui parle de l'image corporelle. On pense au poids, mais il y a bien des façons d'être en dehors du modèle. Les enfants eux-mêmes en sont conscients, dit Linda Dion. À la loterie des corps, les perdants, pour aussi peu que des oreilles décollées ou des taches de rousseur, s'exposent aux insultes et aux railleries dès la cour d'école. J'ai su très tôt que j'étais hors la norme. Comme dans Hors la loi, ça vient jouer sur ton estime personnelle parce que tu voudrais être dans la norme. Mais s'affranchir du poids de l'image n'est vraiment pas simple, souligne-t-elle en pointant ses propres contradictions. Linda Dion estime avoir été un modèle de femme ronde qui s'assume pour plusieurs de ses élèves. De l'extérieur, du moins. À l'intérieur, c'était autre chose. Peut-être qu'on accorde trop d'importance au paraître plutôt qu'à l'être, réfléchissent-elle. On va toujours trouver quelque chose à redire à son corps. C'est là où les femmes, on est piégées, parce qu'on est d'abord perçues comme des objets. L'obligation de la beauté n'épargne personne, souligne-t-elle dans Grosse. Qui veut rester dans l'ombre? En abordant la question du corps, je me suis surprise à découvrir que c'était en quelque sorte parler de la situation des femmes d'aujourd'hui. Je vois à travers le mouvement, moi aussi, que les femmes sont écœurées d'être considérées comme des objets. Il y a une prise de parole, une volonté de dire « je suis un sujet avant tout ». La réflexion de Grosse se termine sur un ventre éviscéré. Tous les morceaux ont été crachés, des mots puissants qui défoncent les tabous et expriment ce que d'autres vivent tout bas. Ce que souhaite Linda Dion, c'est que d'autres femmes se reconnaissent dans cette épreuve de survie. Il faut amener le sujet sur la place publique. Je pense que la solution, c'est de s'ouvrir, d'arrêter d'avoir honte de ça. Il ne s'agit pas de faire l'apologie des femmes rondes ou de tout autre format, plaide-t-elle, mais de se permettre d'être qui on est, sans avoir à s'excuser. Alors donc, il y a aussi des spécialistes qui s'expriment, un mal épidémique. Plusieurs études ont démontré qu'être beau est socialement payant. On a l'impression que les gens qui correspondent au modèle de beauté sont plus en contrôle et qu'ils ont plus accès au bonheur, observe la psychologue Stéphanie Léonard, spécialiste des troubles alimentaires et de l'image corporelle. Dans son livre « Miroir, miroir », la psychologue explore l'obsession collective pour un corps parfait, mince, jeune, féminin, mais athlétique et gratifié d'un visage aux traits symétriques. Atteindre l'idéal de beauté est irréaliste. La preuve est qu'on n'a jamais eu autant de moyens de changer notre corps en étant aussi insatisfait de notre apparence, avance-t-elle. Et j'ai le temps pour un autre point de vue. De plus en plus d'hommes ressentent la pression de bien paraître, mais il reste encore plus acceptable pour eux d'être moins beaux, selon Martine Delvaux, professeure de littérature à l'UQAM et auteure de l'essai « Les filles en série, des Barbie au Pussy Riot » qui analyse la chosification de la femme, donc la femme objet, le vieillissement chez les hommes est encore associée à plus de savoir, de sagesse et de pouvoir, alors que pour les femmes, c'est le contraire, affirme-t-elle. John Berger, écrivain, disait qu'une femme se voit toujours en train d'être vue. On est encore prise là-dedans. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 8 mars 2018. Ici Hélène Denis qui vous redit bonne journée internationale des femmes. Et puis, finalement, on n'a pas eu trop de neige. Hein? C'est quand même moins pire que dans bien des régions du Québec. Alors, gardons le moral, le printemps s'amène. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Et si vous nous écoutez en direct, dans quelques minutes, je vous retrouve à l'émission Les Paractualités avec, entre autres, une invitée en studio. Yeah.